Ben, c'est toujours un plaisir d'être de retour à l'Église ici à Montréal. Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles à la 11e chapitre de l'Évangile de Jean. Dans ma courte vie, j'ai passé quand même beaucoup de temps dans les hôpitaux. Presque jamais pour moi-même, c'est presque toujours pour les membres de la famille ou des amis. Et même généralement pendant ces visites à l'hôpital, c'est pas que je suis pas médecin, je fais pas grand-chose. D'habitude, c'est juste pour consoler la personne qui est malade ou blessée ou quoi que ce soit. Ou juste d'être dans la présence de la personne, ça l'aide. Mais de temps en temps, par contre, dans les hôpitaux, si c'est une situation assez grave, les choses peuvent mal virer assez rapidement. Et on a un bouton rouge sur le mur souvent, puis si on la pousse sur la tape, soit un médecin ou une infirmière va venir assez rapidement au secours pour essayer d'aider dans la situation. Ça ne m'était jamais arrivé, mais on le voit dans les films de temps en temps. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous saviez que lorsque vous touchez ce bouton, que pas juste un médecin ou une infirmière viendrait, mais que c'était en effet le meilleur médecin dans le monde qui existait? Et qui était disponible, et 100% certain qu'il pourrait régler la situation s'il est appelé. Ça donne une bonne confiance, une assurance que tout va aller correct. Mais qu'est-ce qui se passe, mais que vous le touchez, que le gars ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les émotions que vous sentirez? Que vous sachiez que le médecin qui est censé venir, qui était disponible et capable de guérir, décide consciemment de ne pas venir. Moi, je me sentirais fâché, déçu, triste et peut-être quelques autres émotions même. J'imagine que ce serait pareil comme vous. Je pense que c'est comme ça que Marie ressentait lorsqu'elle a appelé Jésus au secours quand son frère était malade. Elle savait bien qu'elle était en mesure de le guérir, mais elle sait qu'aussi elle a tardé intentionnellement, qu'elle a décidé intentionnellement de ne pas venir. On lit en Jean 11 que Jésus a décidé de ne pas venir, pas par indifférence ou pas parce qu'il était occupé avec d'autres choses plus importantes, mais en fait, il a retardé hors de l'amour. Versets 5 et 6. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ben, finalement, quand il arrive, Lazare est déjà mort pendant 4 jours. Et dès son arrivée, Marthe part de la famille avec laquelle il était avec. Il s'en va à Jésus pour y parler, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. À partir de leur dialogue, il y a plusieurs personnes on soupçonnait naturellement que Marthe est en train de donner une sorte de réprimande à Jésus caché. Comme quoi, t'étais où? Pourquoi t'es pas venu? Si c'est vrai ou non, Jésus ne se défend pas. Il n'explique pas sa motivation moi, tout de suite. Pourquoi la raison, il a décidé de tarder. Par contre, il s'en va tout de suite à faire ce qu'il était venu pour faire. C'était quoi son mission? Donc, je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole de Dieu. Et c'est la conversation entre Marthe et Jésus. Jean 11, versets 21 à 27. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, en toi demeure toute la plénitude de la divinité. et toute autorité sur la vie comme sur la mort. Tu ne fais aucune erreur. Et toutes tes voies sont parfaites, même lorsque nous ne la comprenons pas. Sois avec nous ce matin, alors que nous étudions ta parole, afin que nous puissions te connaître davantage, en réfléchissant aux vérités que tu as révélées à ton sujet dans ce texte. Car tu es la source de vie. Montre-nous à travers ce passage la profondeur de ton amour pour nous et la manière dont tu prends soin de ton peuple. Bénis la prédication de ta parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir. S'il y en a une chose que le monde, de façon générale, connaît de Jésus, c'est qu'il aime les personnes. On voit ça tout partout. Pendant que j'habitais à Montréal, je le voyais sur des autobus. Jésus t'aime. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça ne me surprendrait pas. On voit ça sur des collants, sur des bumpers, des autos, tout partout. Jésus t'aime. Donc la question de ce matin, c'est comment est-ce que Jésus démontre l'amour à Marthe dans ces circonstances, dans ce texte? Il a laissé Lazare mourir. Et il a permis Marie et Marthe de passer au travers cette épreuve, pendant que lui-même aurait pu l'empêcher d'arriver. Plusieurs personnes d'entre eux, ils se posaient des questions naturellement. Pourquoi Jésus agi de même? Verset 37. Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Si j'avais le pouvoir que Jésus avait, le pouvoir de la guérison, j'aurais fait. J'aurais guéri toutes vos maladies. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? C'est la tendance naturelle humaine de pouvoir régler les problèmes des autres. Est-ce que Jésus y aimait vraiment Marthe ou Lazare? Est-ce qu'ils s'en souciaient vraiment d'eux autres? C'est parce que le réconfort que Jésus offre à son peuple et la manière qu'il démontre son amour n'est pas toujours de la manière qu'on voudrait, dans la manière qu'on s'attend. Dans cette histoire, Jésus montre effectivement un amour pour Marthe. Il l'a aimé en laissant Lazare mourir. Peut-être même qu'il était dans ses bras. Puis, il l'aime en la consolant et en révélant de plus en plus qui il est et les vérités de l'Évangile selon son caractère, la personne de Christ. Devant la mort, nous sommes complètement impuissants. La mort viendra chercher chacun d'entre nous à un moment donné. Les chrétiens ne sont pas exclus de cela. Même Jésus n'est pas exclu de la mort. Ce récit, cette conversation, ça se passe juste quelques semaines après, avant que Jésus passerait lui-même par la croix. Mais lui-même ne restera pas mort. Qu'est-ce qui est arrivé? 3 jours plus tard, il a ressuscité, a vaincu la mort. Il a dû passer au travers de toutes les souffrances incluses dans cet événement. Il n'est pas un observateur lointain de nos souffrances, de nos difficultés. Il a passé avec nous. En lui demeure notre seul espoir face à la mort, parce que lui seul a pu passer au travers. Lorsque nous sommes impuissants dans la mort, lui ne l'est pas. En lui seul, on trouve un réconfort et la paix, parce qu'il est la vie et la résurrection. Et lui seul est capable de prendre soin de nous dans cette vie maintenant, dans celle à venir et le passage entre les deux. La promesse que Jésus donne, ce n'est pas une délivrance de la mort physique, mais une délivrance au travers la mort. Qu'on puisse arriver à l'autre côté, être en communion parfaite avec notre Dieu, qu'on ne doit pas avoir peur de mourir. Lorsque notre foi est troublée, lorsque vous vous doutez de l'amour de Dieu dans des circonstances difficiles, lors de la mort, regardez à Jésus pour l'espoir, pour l'amour qu'il nous montre, dans la manière qu'on ne s'attend pas toujours. Car lui seul peut réellement prendre soin de nous, même au travers de la mort. Donc, le plan de ce matin suit la conversation entre Marthe et Jésus, où il révèle encore plus qui il est et comment est en mesure de prendre soin d'elle et de la donner un espoir qui persiste, qui passe au travers de la mort. Donc, j'ai trois points. Le premier point, c'est l'espérance dans la mort, versets 21-24. Et c'est là où il donne Marthe un espoir dans la mort. Que la mort n'est pas la fin. Que cet espoir se retrouve dans la parole de Dieu et celui qui est la vie. Et les promesses de la résurrection à venir, la résurrection générale, où Marthe serait réunie avec son frère et encore plus réunie à son Dieu. Et le deuxième point, espérance dans la vie, versets 25-26. Et c'est là où Jésus donne Marthe un espoir en lui-même, en Christ, celui qui ressuscite les morts, celui qui est l'auteur de la vie et celui qui préserve son peuple au travers de toutes les épreuves, surtout l'épreuve de la mort, en leur donnant une vie et une espérance vivante. Et le troisième point, espérance de la foi, verset 27. Et c'est là où Jésus s'assure que Marthe ne regarde pas sur ses circonstances, à la tristesse de la mort, mais par la foi la regarder à Christ au travers de toutes choses. Pour qu'elle ne regarde pas à ses distractions, mais garde ses yeux fixés uniquement sur Christ par la foi. Donc c'est ainsi que Jésus prend soin de Marthe lorsque son frère est mort. En lui donnant une espérance véritable qui persiste au travers de toutes les différentes circonstances. Même si nous connaissons la fin de cette histoire, à ce point-là, Marthe ne la sait pas. Elle ne sait pas ce qui arrive à la fin du chapitre. Avant que Jésus ait accompli un miracle, le miracle de la résurrection de Lazare, il demande la foi de Marthe. Pour qu'elle soit concentrée sur lui, peu importe ce qui arrive. Parce que la résurrection qui viendra de Lazare jusqu'à la fin du chapitre n'est pas permanente. C'est temporaire. Lazare, il mourra dans quelques années plus tard. Je ne pense pas que c'est dans la Bible, mais ce n'était pas la résurrection finale. Donc, ça se peut bien... c'est certain que Marthe et Marie devront passer encore à nouveau au travers d'un deuil dans quelques années. Donc, ils ont besoin de quelque chose qui persiste. Ce qui m'amène au premier point, notre espérance dans la mort. À partir du verset 21, Marthe s'adresse à Jésus de la même manière qu'elle lui a adressé lorsque Jésus était arrivé, était reçu chez Marie et Marthe. Lorsque Marie a décidé de ne pas aider à préparer le repas, mais a décidé de s'asseoir au pied de Jésus. Et Marthe, c'est elle qui sort, puis dit en effet à Jésus, « Peux-tu dire à ma soeur de venir m'aider? » C'est pas les mêmes paroles, mais les mêmes intonations d'essayer de dire à Jésus quoi faire. Et elle tente dans notre texte de faire quelque chose de très similaire. Par contre, cette fois-ci, on entend des larmes au travers de ses paroles. On entend sa tristesse. Parce qu'elle sait que Jésus s'est volontairement tardé de venir. Par contre, au verset 21, ses paroles révèlent trois erreurs, trois suppositions erronées que Marthe a. Et le premier, c'est qu'elle pense que Jésus devait être présent pour guérir Lazare. Pourtant, dans les évangiles, si vous connaissez bien, il y a plusieurs histoires où Jésus guérit à distance. D'ailleurs, il aurait pu faire facilement pour Lazare s'il voulait. Et la deuxième erreur qu'elle fait, c'est qu'elle suppose que c'était la volonté de Jésus de guérir Lazare. Évidemment, son retard démontre que ce n'est clairement pas le cas. Qu'il avait une autre plan. Et la troisième erreur qu'elle fait, c'est qu'elle croit qu'il peut rien faire pour les morts. Ces paroles disent, en gros, elle dit que c'est trop tard. Tu aurais dû être ici il y a 5 jours, Jésus, pour aider mon frère, de le guérir, de l'empêcher de mourir. Malgré tout cela, malgré ses erreurs, c'est normal parce qu'elle est tellement prise avec la tristesse, elle est accablée par le chagrin, elle ne pense pas clairement. C'est ce qui arrive parmi ceux qui sont en deuil. Parce que nous voulons que Dieu agisse toujours selon notre volonté et pas la sienne. On voudrait qu'il guérisse tout le monde à notre rythme et quand on le désire. Et lorsqu'il ne la fait pas, ça nous touche, ça nous irrite si on est honnête. Nous manquons souvent une compréhension ou peut-être même une confiance dans la providence de Dieu. À chaque fois qu'on pense de même, à chaque fois qu'on on insinue que Dieu a fait une erreur. Ce n'est pas le cas. Nous savons que Dieu est parfait, qu'il ne fait pas d'erreur. Il faut avoir mettre notre confiance dans Dieu qui ne fait pas d'erreur, qui est providentiellement au contrôle de toutes choses. Il est plus sage que nous. Même si les choses déroulent autrement qu'on voudrait, nous devons mettre notre confiance dans un Dieu qui est souverain, parce que ses voies sont parfaites. Mais malgré cette incompréhension fréquente qui nous arrive, une incompréhension de la providence de Dieu, ce même Dieu demeure un Père qui nous aime, un Père qui prend soin de son peuple et nous invite à apporter toutes nos souffrances, nos difficultés, nos cris à lui. Il est un Dieu qui prend soin de son peuple. Comme Pierre dit en 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Marthe est en train de faire exactement cela. Elle déverse de venger toutes ses douleurs, ses larmes et ses angoisses, parce qu'elle sait, entre autres, que Jésus prend soin d'elle. Donc, je vous dis de faire pareil, d'apporter vos craintes, vos souffrances à Dieu, parce qu'il est un Dieu qui prend soin de nous et qui nous aime. Et c'est également une expression de foi, une expression de confiance. Parce que la foi n'exige pas une compréhension complète de la providence de Dieu. Ça demande uniquement une soumission à cette providence. On n'a pas besoin de tout comprendre. Mais on peut être confiant qu'on a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui arrive par accident. Et il ne fait pas d'erreur. Mais l'appel, c'est de soumettre à sa providence. En poursuivant au verset 22, Marthe est en train d'exprimer la profondeur de sa foi en Jésus en la confessant à lui. Bien qu'il ait tardé, bien qu'elle soit remplie de larmes, elle ne perd pas la foi. Elle s'y attache fermement, reconnaissant la relation que Jésus possède avec le Père. Mais maintenant qu'il est arrivé, elle espère qu'il serait en mesure de faire quelque chose. Par contre, pas de savoir, elle ne sait pas tout à fait quoi qu'il est en mesure de faire. Elle n'a pas la résurrection en tête. On peut savoir ça parce que plus tard dans le chapitre, au verset 39, lorsque Jésus est devant le tombeau, prêt à ressusciter Lazare, il demande qu'il déplace la pierre, puis c'est Marthe qui l'empêche. Qui dit, ça fait 4 jours qu'il est déjà mort, il va avoir une bonne odeur. Donc, ce n'est pas ça ce qu'elle avait en tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait que Jésus était en train de faire, mais ce n'était pas la résurrection. Même après cette conversation, elle ne comprend toujours pas la pleine puissance de Jésus. À quel point ça veut... les choses qu'il les révèle, à quel point il est puissant de le faire. L'intention de Marthe au verset 22 de cette question est un peu ambiguë. Elle espère que Jésus peut faire quelque chose, mais elle ne sait pas quoi lui demander. Par contre, elle espère que Jésus fasse savoir quoi demander au Père. Dans nos moments de grande souffrance, on peut être pareil, de ne pas savoir quoi demander à Dieu. Mais nous avons un intercesseur qui connaît qu'est-ce que nous avons besoin, qui nous aime, qui prend soin de nous, qui connaît les besoins de nos cœurs. Jésus connaissait exactement ce que Marthe avait besoin d'entendre pour prendre soin d'elle, pour montrer son amour vers elle, parce qu'il prend soin d'elle. Verset 23 présente les premières paroles de consolation que Jésus donne à Marthe. Il lui rappelle que Dieu est souverain sur toutes choses. Et qu'il lui fait une promesse, qu'il a fait une promesse à son peuple. Ton frère ressuscitera. Dieu n'est pas seulement souverain sur certains éléments de la vie, certains aspects de la politique ou autre. Mais non, il est souverain sur toutes choses, incluant la vie et la mort. Lui seul peut ramener des morts à la vie. Des médecins sont assez limités dans les choses qu'ils peuvent faire. C'est vrai que la science continue, s'améliore, et ils peuvent faire de plus en plus pour augmenter la santé et guérir si on est blessé gravement. Mais à l'autre côté de la mort, ils ne peuvent pas faire grand chose. Mais Jésus n'est pas limité par cette limite. Lui possède le pouvoir de ramener des corps à la vie. Et lorsqu'il décide de tarder à exercer cette souveraineté et de permettre Lazare de mourir. Cependant, Jésus dirige les pensées de Marthe vers l'espérance de la résurrection. Lorsque tous les hommes seront relevés, et elle serait réunie à son frère finalement au dernier jour. Et Paul appuie cette même espérance lorsqu'il exhorte l'église de Corinthe en 2 Corinthiens 1, versets 8 à 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est là l'objet de notre espérance, que la mort n'est pas la fin, mais qu'il y aurait une résurrection finale qui viendra. Et notre espérance est dans celui qui peut accomplir cette œuvre. Et encore plus, Jésus rend ça très personnel pour Marthe. Ton frère à toi va ressusciter. Mais même cette déclaration demeure un petit peu ambiguë. Parce que Jésus pourrait être en train de parler de la résurrection générale à la fin des temps. Ou même il pourrait être en train de parler de la résurrection qui viendra dans quelques heures. Peu importe, Marthe est en train de... Elle a compris ça, que Jésus est en train de parler de la résurrection générale. Elle connaît les vérités de l'Ancien Testament. Elle connaît les vérités qu'elle a entendues depuis son enfance. Par contre, c'est une vérité qui était un peu divisée, controversée à son temps. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes qui ne croyaient pas, particulièrement les Sadducéens, qui niaient plusieurs éléments de la spiritualité, les anges et autres, et encore plus la résurrection. Jésus a eu plusieurs conflits avec eux dans les évangiles. Notamment en Matthieu 22, il discute de ce point spécifique, où il essaie de mettre le défi à Jésus de régler toutes leurs questions. Et Jésus les répond de manière bien professionnelle. Par contre, les paroles que Jésus donne à Marie et encore appuyé par Paul, c'est qu'il faut s'affliger comme des personnes qui ont de l'espérance. L'apôtre Paul adresse exactement les mêmes exhortations un peu plus tard à l'église en Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Nous qui avons une espérance, on ne peut pas s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous qui croyons que Christ est ressuscité, faut vivre en fonction de cette réalité. Dans notre tristesse, dans notre souffrance, dans nos difficultés, de vivre ces émotions avec une espérance que ce n'est pas la fin, qu'ils vont avoir un fin à ces difficultés, qu'il y a une résurrection qui viendra, qu'on va être délivré de la présence du péché, qu'on va être délivré de toute souffrance, que la mort, ultimement, n'est pas la fin. La mort n'est certainement pas la fin pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Et nous pouvons avoir une assurance qu'on va lui revoir lorsqu'on passe par la mort. Et là-dedans, ça demeure un des plus grands bienfaits de la communauté chrétienne. Dans les temps de difficulté, nous pouvons nous encourager mutuellement de se rappeler de ces vérités comme Jésus est en train de faire à Marthe. De la rappeler qu'il y a un fin à nos difficultés. De se rappeler de l'espérance que nous avons mutuellement. Dans le passé, lorsque j'avais des difficultés, lorsque j'étais pris avec certaines luttes, mon épouse m'a rappelé de plusieurs passages dans la Bible pour m'encourager, pour rediriger mes pensées, mes réflexions vers Dieu. Et c'est ça l'appel de la communauté chrétienne, de faire pareil, mutuellement, de s'encourager, de s'assurer qu'on passe au travers de nos tristesses, nos difficultés, comme des croyants qui ont de l'espérance. Parce que voilà l'espérance que les croyants ont face à la mort. Une espérance qui réconforte, une espérance qui amène la paix et qui dure au travers la mort. Nous suivons celui qui a passé par la mort avant nous. Et nous devons détourner nos regards, pas de nos circonstances, mais de les porter sur lui. Et de porter notre attention vers les promesses qu'il nous a données. Parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il est la vie. Et pour avoir cette vie, et pour avoir cette promesse, il faut que cette vie soit en nous. Ce qui m'amène à mon deuxième point. L'espérance que nous avons dans la vie. Et là, je ne parle pas de la vie de façon générale. Ou l'espérance de façon générale, mais celui qui est la vie elle-même. Verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi même vivra même s'il meurt. » En Christ trouve la source de la vie éternelle et la puissance de ramener des corps morts à la vie. Et la résurrection n'est pas simplement un événement lointain, comme Marie pense présentement. Mais elle est en train d'apprendre que la résurrection est une personne. Celui qui détient l'autorité sur la vie et sur la mort. Celui qui ressuscitera son peuple au dernier jour. Ailleurs, Jésus dit en Jean 6, 40, « La volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. J.C. Ryle, il fait la remarque. Jésus dit à Marthe qu'il n'est pas simplement un enseignant humain de la résurrection, comme je suis en train de vous le faire. Mais l'auteur divin de toute résurrection, tant spirituelle que corporelle, est la racine ainsi que la source de toute vie. Quand Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie, il ne se répète pas. Ces termes ne sont pas synonymes, mais ils sont complémentaires. Car il est en train d'expliquer comment lui-même peut renverser la malédiction complète de la chute, la malédiction sur la race humaine. Dans le jardin, les sanctions de notre désobéissance envers Dieu étaient la mort, à la fois spirituelle que physique. Immédiatement, l'homme, lors de son désobéissance, est mort spirituellement. C'est exactement ce qu'il enseigne en Éphésiens 2. Et plus tard, la mort physique viendra. Et ces deux réalités, ensemble, font la conséquence de la chute, la conséquence de notre désobéissance. Mais maintenant, en Christ, ces deux aspects sont renversés. Lorsque nous croyons en Christ, notre communion spirituelle avec lui est rétablie. Et nous revenons spirituellement à la vie. Nos âmes sont ressuscitées lorsque nous passons de la mort à la vie en Christ, par la foi. Dès lors, même nos âmes sont en sécurité. Elles ne peuvent pas mourir. Elles ne peuvent pas mourir à nouveau. Nous possédons une vie éternelle par la foi. Et la résurrection corporelle, elle est toutefois à venir. De ce côté du tombeau, nous devons dealer avec la mort. Cet aspect demeure. Les chrétiens ne sont pas exemptés de cette malédiction. On connaît l'expression « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Mais le renversement de la malédiction d'Adam viendra et serait achevé au dernier jour. Jésus est à la fois la moyenne de revenir à la vie parce qu'il est la résurrection et il est l'objet auquel on retourne parce qu'il est la vie elle-même. Lorsque les temps seront accomplis, Christ reviendra au son de la trompette, sur les nuées, et il va appeler tous les hommes. Il va ressusciter tous les méchants comme les bons. Dans la résurrection générale. Et c'est ça qu'il est en train de parler en Jean 5. Il dit, Jean 5, 25 à 29. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bien que tous les hommes vont être ressuscités à la fin des temps, pas tout le monde va être ressuscité pour la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal feront face à ce qu'on appelle la seconde mort. Et c'est là qu'ils vont subir le jugement éternel de Christ en enfer. Mais ceux qui appartiennent à son peuple, ceux qui vont recevoir la plénitude de la vie dans leur corps. Et ils seront mis en communion parfaite avec leur Dieu et leur Sauveur. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Celui qui demeurera avec son peuple pour toujours dans la gloire. Et voilà ce que cela signifie, que Christ est à la fois la vie et la résurrection. La promesse que Jésus donne en verset 25 est sûre et certaine. Christ a pleinement pourvu pour les besoins de son peuple. La mort ne va pas les atteindre. Nos corps et nos âmes vont être rachetés par Christ. Dans la vie éternelle, on ne serait pas comme des fantômes qui flottent sur les nuages comme qu'on voit de temps en temps dans les films, ou une espèce d'existence purement spirituelle. Au contraire, à la résurrection, tout notre être va être purifié de la corruption pour être pleinement racheté par le sang de Christ. Nos corps ne sont pas des choses à rejeter ou à abandonner, comme y enseignent plusieurs différentes philosophies, que le but de l'existence est d'échapper de ces corps. En effet, à la résurrection, on va retourner vers l'état dans le jardin. Adam et Ève avaient un corps et un âme. Et Dieu a déclaré que c'était bon. Et rien n'a changé depuis. Quand même le péché, ça va être renversé et ça va toujours être bon. Parce qu'être humain, être véritablement humain, c'est d'être corps et âme rachetés par Christ. C'est pour cela qu'il faut honorer nos corps. C'est exactement ce que Paul enseigne en 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes appelés à glorifier notre Dieu avec tout notre être. Pas juste nos âmes, mais également avec nos corps. Et on ne peut pas séparer notre service à Dieu dans des choses spirituelles puis physiques. Il faut traiter nos corps comme le temple du Saint-Esprit. On n'est pas un homme emprisonné dans des corps en attente d'une libération. Parce que vous êtes votre corps et votre âme. Les deux. Vos corps sont bons. Parce que Dieu a déclaré qu'ils sont bons. Et après la résurrection, vous serez dans vos corps pour toute l'éternité. Pour glorifier Dieu, corps et âme. Notre espérance n'est pas de fuir de nos corps, d'échapper. Notre espérance est d'attendre la rédemption de nos corps. Et la résurrection qui viendra. Comme l'indique verset 26, les croyants peuvent avoir une véritable assurance que leur âme et leur corps seront préservés à travers la mort. La mort n'est pas la fin pour nous, mais il est uniquement un changement de demeure. La mort ne pourra pas rompre notre communion avec Dieu. De même que Dieu a préservé Noé au travers tout le chaos du déluge, on va être préservé au travers le chaos de la mort. Et la décomposition de nos corps n'est pas un problème pour Dieu. Il va pouvoir rassembler toutes les molécules, toutes partout pour nous remettre ensemble. La promesse qui nous est donnée est que si nous croyons en Christ, on ne va pas mourir. Pas physiquement, mais spirituellement. On pourra avoir une profonde assurance du salut. Non pas à cause de la force de notre foi, mais à cause d'un Dieu qui est puissant. Un petit foi dans un grand Dieu est suffisant. Et rien ne peut nous séparer de lui, même la mort. Parce que même si notre foi est faible, on a un Dieu qui est la vie, et qui est encore plus que la vie, qu'il est la résurrection. et qui va préserver son peuple au travers toutes circonstances. Après la résurrection, lorsque la malédiction sera entièrement renversée, vos corps mourront pas. Ils vont être achevés à son état final pour glorifier Dieu, parce que la chute va être complètement renversée à ce point-là. Croyez-vous cela? Croyez-vous non seulement en Christ, mais aussi dans sa résurrection à venir? Croyez-vous que si vous mourrez, vous vivrez? Et c'est ça la question que Jésus pose à Marthe. Croyez-vous cela? Car si vous ne la croyez pas, dans cette résurrection, vous êtes sans espérance. Et vous demeurez dans vos péchés, séparés de lui. Comme j'ai déjà établi, vous aussi vous allez ressusciter, mais ce ne serait pas vers la vie. Mais pour ceux qui ont cru, pour ceux qui croient qu'ils peuvent répondre oui à cette question, vous avez une assurance profonde qui persiste au travers de la mort. Et ce qui m'amène à mon troisième point, l'espérance de la foi. Car nous attendons par la foi en espérance pour l'achèvement, de la renversement de la malédiction et le salut complet en Christ. Dans le voyage du pèlerin, c'est une histoire très bien connue. Le personnage, il passe au travers plein de différentes difficultés, des circonstances, des obstacles, la mort, la maladie, X, Y, Z. Et tout au travers cette histoire, il est guidé par la foi, guidé par les promesses que Dieu lui a données. Mais à la fin de l'histoire, il est confronté avec l'ennemi dernier, le dernier obstacle, et c'est la mort elle-même. Et il hésite. Il arrête. Il est incapable d'avancer temporairement. Il avait la confiance en Dieu pour passer au travers toutes les circonstances de la vie, mais qui arrive à la fin, il doit prendre une petite pause pour sonder la profondeur de son corps, pour voir s'il faisait assez confiance en Dieu pour lui confier son âme en face à la mort. La réalité de la mort apporte une certaine clarté à la foi. Dans bien des situations, nous pensons pouvoir nous aider nous-mêmes. Les problèmes financiers, il suffit de travailler encore plus fort. La maladie ou autre, il faut aller voir un médecin ou prendre des médicaments. Par contre, lorsqu'on fait face à la mort, on réalise à quel point on est impuissant. Et il n'y a pas d'autre moyen à s'en sortir. La mort pousse souvent des gens à faire des confessions de lit de mort, à de réfléchir honnêtement à la réalité de la foi, si elle est une foi authentique, et à quel point c'est profond en nous. C'est la clarté que la mort puisse nous amener, parce qu'on est impuissant face à cela. Et c'est ça la bénédiction cachée que cela peut nous amener. L'essence de la vraie foi dans de telles circonstances n'est pas de regarder vers nos circonstances, mais de regarder à Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus met la question à Marthe. Il dit en d'autres mots, « Où est-ce que tu regardes, Marthe? Gardes-tu à ton frère qui est mort? » Gardes-tu au tombeau ou est-ce que tu regardes à moi? Jésus dit pas que tout allait bien aller. Tu vas quand même avoir des difficultés dans cette vie. Mais regardes-tu à tes difficultés ou est-ce que tu regardes à moi? Parce que je suis la seule qui peut calmer les tempêtes, qui peut te donner une espérance qui persiste au travers de la mort. Pour revenir à la voyage du pèlerin, le personnage a finalement appris à sonder son cœur, à trouver la confiance, ultimement de remettre son âme au complet à Dieu et d'entrer avec confiance dans la mort. On n'a pas regardé en la mort elle-même, mais de marcher en regardant à Christ. et avec lui, nous devons faire la même chose. Et de regarder même à la confession que Jésus a faite, ses dernières paroles sur la croix. Il dit, en Luc 23, 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est entre les mains de notre Sauveur qu'il faut confier nos âmes, qu'il faut remettre nos âmes. En lui faisant pleinement confiance que lui peut faire quelque chose, que lui peut nous préserver, pas de la mort, mais au travers la mort. Parce qu'en lui est la vie. Mais pour agir ainsi, il faut connaître la foi en laquelle nous mettrons notre confiance. Au verset 27, après que Marthe l'a confronté, Marthe confesse la contenue de sa foi. Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Comme j'ai dit, cela se passe avant que Jésus ait fait un miracle. Marthe fait entièrement confiance à Jésus, basé uniquement sur ses paroles, sans aucun preuve visible. Elle appuie sur les promesses qu'elle a entendues autant de sa jeunesse, de son enfance, que les promesses qu'elle a entendues maintenant de Jésus. Et il en est de même avec nous. Mais je n'ai pas vu beaucoup de résurrection, moi. Je n'ai pas vu beaucoup non plus de miracles. Et j'imagine que c'est pareil avec vous. Par contre, la demande est pareille. Qu'on fasse confiance en Christ sans ses preuves visibles. Et c'est pour ça même que les évangiles ont été écrits. À la fin de l'évangile de Jean, on lit ceci en chapitre 20, 29 à 31. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les Écritures ont été écrites pour ce but précis, pour susciter la foi dans ses disciples. Pas pour simplement convenir de l'information historique, mais pour produire la foi. Ces versets, verset 27, résument la contenue de la foi de Marthe. Entre autres, elle fait trois confessions. La première, c'est que Jésus est le Christ. Le Messie, celui qui promit pour délivrer son peuple de l'esclavage et de la servitude. Et la deuxième, qu'il est le Fils de Dieu. Non pas un être distinct de Dieu, mais véritablement Dieu lui-même. Et la troisième, c'est qu'il est celui qui est venu dans le monde. Qu'il n'est pas de ce monde, mais qui vient d'ailleurs, du Père, incarné pour entrer, pour sauver son peuple, et puis à marcher parmi nous. Marthe connaissait ces vérités. Elle est en mesure de la confesser devant Jésus lui-même. Elle n'exprime pas la confiance ou la foi de façon générale, ou une espérance générale. Mais en effet, elle est très précise. Il y a un contenu à la foi chrétienne auquel il faut connaître pour confesser. La foi engage autant les éléments, les facultés intellectuelles que nous avons et émotionnelles. Si on néglige un, l'autre va souffrir. Si vous ne savez pas en quoi vous croyez, vous ne pouvez pas vraiment exercer un foi qui est vraiment fort. Et votre foi serait inévitablement faible ou même inexistante. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir une maîtrise en théologie pour être chrétien. Pas en tout. Mais pour être véritablement croyant, il faut savoir en quoi on confesse, en quoi on croit. Connaître la contenu de la foi chrétienne conduit par contre à une communion qui augmente avec notre Dieu au fur et à mesure de la vie. Au fur et à mesure qu'on connaît les choses sur lui, les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, notre communion avec notre Dieu va croître. Marthe les connaît les vérités de la vie. Et même dans ses douleurs, elle a dû être rappelée par Jésus de ses vérités. Poursuivez alors la connaissance de Dieu, mes frères et sœurs. Car comme Jésus l'a défini en Jean 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie nouvelle, la vie éternelle, elle est définie par la connaissance de Dieu. Et si vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais comme toute relation, ils vont grandir avec le temps. Ça fait 5 ans et demi que je suis marié et j'apprends presque à tous les semaines des nouvelles choses sur ma femme. Les choses qu'elle aime, les choses qu'elle n'aime pas, son comportement. Et mon amour pour elle est toujours en train de grandir en fonction. Et c'est pareil avec la vie chrétienne. Lorsqu'on continue à grandir dans notre connaissance de la parole, notre amour pour Dieu va grandir. Et notre foi va grandir, et notre espérance en lui va grandir. Et voilà l'espoir suprême que nous pouvons avoir. Que par la connaissance de Dieu, nous pouvons être délivrés. Pas de la mort, mais au travers de la mort. Marthe a pu faire cette telle confession parce qu'elle connaissait qu'elle était en communion avec son Dieu. Elle avait une foi authentique qui est en mesure de confesser publiquement à Jésus et devant les autres. Et Paul nous rappelle l'importance de cette confession. En Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu sera sauvé. Croyez-vous cela? Avez-vous confessé, pas juste, avez-vous confessé Christ comme Seigneur? Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Qu'il est entré dans le monde pour sauver des pécheurs? Car quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà la promesse pour tous les hommes. Notre seule espérance dans la vie comme dans la mort se retrouve en Christ seul, qui ne promet pas une délivrance de la mort physique, mais une délivrance au travers la mort, parce que lui-même est souverain sur la vie et sur la mort. Et il prend soin de son peuple. Et il nous aime. Il est la résurrection et la vie, ayant pourvu une pleine rédemption pour son peuple, qu'on puisse traverser au travers la mort avec une espérance. Il est votre seul espoir, car nous sommes impuissants devant la mort. Il réconforte son peuple et donne un paix en nous rappelant les vérités de l'Écriture. Dans la résurrection à venir, de détourner nos regards, pas de nos circonstances, et pas de la mort, mais vers lui. Voilà ses promesses. Voilà le fait qu'il est la vie et la résurrection. Croyez-vous cela? Prions. Seigneur Jésus, il n'y a personne de plus grand que toi. Il n'y a personne de plus puissant que toi. Ta gloire nous dépasse. Attire nos regards vers toi, afin que nous te fassions davantage confiance et que nous placions toute notre espérance en toi, tandis que tu nous consoles par ta parole. Je te prie que ta parole accomplisse ton œuvre aujourd'hui. Amen.